La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Il est l'auteur d'un grand livre, Les Sept Piliers de la Sagesse, pratiquement sa seule œuvre littéraire, mais douée d'une ambition totale. Car avant d'être écrivain, Lawrence d'Arabie était un aventurier, un espion, un meneur d'hommes, un militaire, quoique indiscipliné, et un stratège visionnaire. Mais il était aussi un archéologue, un flâneur, un érudit, sachant regarder, contempler et finalement écrire cette œuvre magistrale. Et il est enfin le sujet de la compagnie jusqu'à mercredi. Et jusqu'à mercredi seulement, car jeudi, notre toute dernière émission de la saison sera consacrée à l'océan ou la mer dans la littérature, grâce à Nicolas Hédier qui a préfacé l'anthologie qu'avait fait Simon Leys sur ce thème dans sa reparution chez Bouquin Lafond. La veille mercredi, Christine Jordis viendra nous parler de la personnalité en quête d'absolu et d'infini de Lawrence d'Arabie, ainsi que du livre L'aventure du désert qu'elle lui a en partie consacré. Enfin, demain, c'est Jean Rollin qui sera à ce micro pour évoquer les années de jeunesse de Lawrence d'Arabie quand il parcourait le Moyen-Orient en visitant les châteaux des croisés dans le but d'écrire une thèse. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, nous racontons la vie de T. Lawrence avec l'historien Christian Destremau, auteur en 2014 de sa biographie aux éditions Perrin. Perrin, éditeur où il a également publié le livre Le Moyen-Orient pendant la Seconde Guerre mondiale, mais aussi une biographie de Louis Massignon avec Jean Moncelon. Et en 2017, l'ouvrage intitulé « Churchill et la France ». Churchill qui avait d'ailleurs connu T.E. Lawrence et qui ne tarissait pas d'éloges sur lui, comme on l'entend dans cet extrait du livre « Lawrence by his friends » que je vous propose tout de suite d'écouter.
Lorsque la plus grande partie de la vaste littérature de la Grande Guerre aura été reléguée et remplacée par les épitomées, commentaires et histoires des générations à venir, lorsque les opérations compliquées et vainement coûteuses des lourdes armées n'intéresseront plus que les spécialistes des questions militaires, lorsqu'on regardera nos batailles d'une perspective éloignée et dans de plus justes proportions, le récit de Lawrence de la révolte dans le désert brillera d'un éclat immortel. En tant que récit de guerre et d'aventure, et fresque de tout ce que représentent les Arabes dans le monde, Les Sept Piliers est un livre inégalable. Il se classe parmi les plus grands ouvrages jamais écrits en langue anglaise. Je tiens Lawrence pour l'un des plus grands hommes de notre temps. Je n'ai jamais rencontré son pareil. J'ai bien peur que, quel que soit le besoin qu'on puisse en avoir, nous ne retrouvions jamais un être semblable. Le roi George V écrivit à son frère « Son nom vivra dans l'histoire ». C'est vrai, il vivra dans la littérature anglaise. Il vivra dans les annales de la guerre.
Une lecture par Pierre-Marie Baudouin. Bonjour Christian Destremau.
Bonjour.
Alors on l'entend dans ce texte, Thomas Edward Lawrence a fasciné des hommes aussi difficiles à étonner que Winston Churchill. Winston Churchill n'a d'ailleurs pas été le seul. On peut dire que son pouvoir d'attraction était immense. Comment vous expliquez cela ?
Écoutez, d'abord, il y a une raison immédiate, c'est après la tragédie de la guerre de 14, le public, dans son ensemble, était en recherche de héros. Cette guerre de 14 avait été anonyme, évidemment les actes héroïques avaient été extrêmement innombrables, mais on cherchait à sortir de cette impression d'une guerre inutile, de cette multitude de sacrifices qui n'avaient pas beaucoup de sens. Et le grand public, comme les dirigeants, comme les écrivains, était à la recherche de quelqu'un qui avait fait quelque chose de différent. Et ils ont trouvé en Lawrence, effectivement, qui a très vite su se faire connaître. parce que c'était aussi un artiste de la publicité. Ils ont trouvé en Lawrence un héros d'autant plus attirant qu'il était complexe. Il n'était pas simple comme ces grands héros qui franchissaient la tranchée durant la guerre de 14, et que cette complexité du personnage, amplifiée par son œuvre littéraire, le rendait extrêmement attirant pour toute une génération d'intellectuels et qui eux-mêmes rejetaient la guerre de 14 et tout ce qui tournait autour.
Mais cette attirance, on a l'impression qu'elle se poursuit aujourd'hui, et quand on lit votre biographie, Christian Destremaux, on a l'impression que vous n'avez pas été vous-même totalement étranger à une certaine forme de fascination pour lui. C'est tout de même quelqu'un de passionnant, de difficile à comprendre et qui continue malgré tout de faire rêver.
Alors, c'est ça qui est extraordinaire chez Lawrence, c'est qu'il fait rêver. D'ailleurs, évidemment, il y a eu le grand film de David Lean qui a contribué en grande partie toute une génération, à poursuivre cette légende de Lawrence. Il continue à faire rêver la jeunesse, évidemment, ses voyages, cette épopée du Moyen-Orient, de la révolte arabe, continue et continuera longtemps à fasciner beaucoup de monde. Et en même temps, je dois dire qu'avec la maturité, lorsqu'on lit son œuvre, on le lit à 20 ans et puis on le relit plus tard, à 45, 50 ans, on s'intéresse au personnage et on découvre un personnage d'une infinie complexité. Malraux a intitulé son livre sur Lawrence « Le démon de l'absolu » et je crois qu'il, malheureusement, Malraux avait fait totale fausse route. Lawrence n'avait pas du tout le démon de l'absolu, il était quelqu'un de profondément humain. Mm-hmm. Un homme comme tous les hommes, fait de tous les hommes, et c'est ça qui restera et qui continuera, je crois, pendant des dizaines d'années à alimenter l'intérêt qu'on peut avoir pour ce personnage extrêmement complexe et extrêmement séduisant par certains côtés.
Un homme fait de tous les hommes, vous citez Sartre, vous tirez Lawrence du côté de l'existentialisme en faisant cela ?
Un petit peu, je pense, je connais mal personnellement l'existentialisme. Mais en même temps, je pense profondément que il correspondait aussi à une volonté, à un désir de l'époque de replacer l'individu au centre. Encore une fois, la guerre de 14 avait été une tragédie collective, anonyme. Et après la guerre, cette forme d'héroïsme, de sacrifice pour la nation, pour cette notion de que l'essentiel c'était d'accomplir son devoir, tout cela n'avait plus beaucoup de sens. Et Lawrence, par son épopée totalement individuelle, puisque c'est vraiment quelque chose, la révolte arabe, c'est quelque chose, non pas qu'il crée lui-même, mais enfin qu'il pousse lui-même, c'est une invention presque de Lawrence. Eh bien, cette autonomie de l'individu, elle revient au centre des préoccupations. Et pendant de longues années, je crois que c'est ça qui va fasciner. D'ailleurs, beaucoup d'écrivains ont été vraiment fascinés par Lawrence à cause de cela.
Alors, on va parler de l'enfance, de la jeunesse de T. Lawrence avec vous, Christian Destremaux. Mais vous commencez votre biographie par ce voyage au Moyen-Orient, qu'on va d'ailleurs détailler demain avec Jean Rollin. Lawrence a 20-21 ans, il débarque en Palestine, qui est un pays en très mauvais état, qu'il compare à un immense roncier, mais où finalement il se sent assez à l'aise. Est-ce que c'est ça la vraie naissance de T. Lawrence, c'est sa découverte du Moyen-Orient ?
Écoutez, c'est une époque, le début du 20e siècle, où tout est possible. On est dans cette Angleterre à la fin de l'époque de la reine Victoria. Maintenant, c'est l'Angleterre de l'Empire. C'est le Royaume-Uni triomphant. Tout est possible pour un jeune homme. Et il est très important de prendre en considération l'enfance de Lawrence, le fait qu'il ait été non pas un enfant illégitime, mais que son père, qui était quelqu'un de très bonne famille, un baronnet qui avait des moyens financiers, ait pris cette extraordinaire décision non seulement de faire plusieurs enfants avec la gouvernante de ses enfants, qui elle-même était d'origine tout à fait mystérieuse.
Alors qu'ils avaient déjà, ce baronnet et sa femme, quatre filles.
Ils avaient quatre filles. Le baronnet tombe amoureux de la nurse, et qui est quelqu'un de milieu tout à fait mystérieux, et il prend ses décisions extraordinaires pour l'époque, c'est de partir avec, s'installer avec la gouvernante. Mmh.
Donc il abandonne ses terres, il abandonne même son nom.
Il abandonne son nom et il prend le nom de cette jeune femme. C'est un acte inouï pour l'époque, inouï. Et Lawrence sera, je pense, mais peut-être que vous en parlerez demain longuement, tiraillé entre, et en même temps ça fera sa richesse, entre ces certitudes qui lui viennent de son père, qui sont les certitudes d'un baronnet de l'époque victorienne, et puis cette totale liberté qui lui vient de sa mère, qui est une personnalité assez extraordinaire, cette notion de déclassement, et en même temps, il y a toujours quelque chose chez Lawrence, c'est qu'il a cette solidité qui lui vient du côté de son père.
Alors, solidité du côté du père, quand même du côté de la mère, il y a un certain nombre de choses à dire, parce que elle n'était pas tendre, visiblement, avec ses enfants, et puis on l'appelait la reine du vinaigre. Alors la reine du vinaigre, c'était d'abord la première femme de Thomas Chapman, donc le père de T. Lawrence, mais finalement la gouvernante, devenue la nouvelle femme, et donc la mère de Lawrence, j'espère que tout le monde s'y retrouve bien, n'est pas tellement mieux.
Elle est très dure avec ses fils, qu'elle adore, elle a 5 fils. Donc Thomas Chapman finalement aura 9 enfants, 5 garçons, et elle les tient de manière d'une main de fer. Elle est extrêmement croyante. Cela donnera à Lawrence surtout une espèce de connaissance profonde de la Bible, et c'est ça qui l'emmène. C'est extraordinaire. Dans ses premiers voyages, il se repère en Palestine et en Syrie, essentiellement grâce à la Bible. Il part à pied dans les montagnes, il est tout jeune, sans rien, avec une chemise de rechange, une paire de chaussettes, et il est capable de citer, c'est le cas de beaucoup de gens, en tout cas en Angleterre à cette époque, qui peignent dans la Bible. Il est capable de citer très précisément des passages de la Bible concernant le moindre petit bourg de la région.
La compagnie des auteurs sur France Culture, nous sommes avec Christian Destremaux pour raconter la vie de T.E. Lawrence, dont les parents, on vient donc de le dire, sont partis, ont quitté l'Irlande. Le père a transmis ses terres à l'un de ses frères en échange donc d'une rente annuelle qui lui permet quand même de vivre avec une certaine aisance. La famille arrive donc au Pays de Galles et naît T.E. Lawrence, second enfant, second fils de la famille, à Tremadoc en 1888. Et puis après, originalité aussi de cette famille-là, Christian Destremaux, ils vont pas mal bourlinguer d'un côté et de l'autre de la Manche.
Exactement. Bon, il s'installe quelque temps en France, à Dinard. C'était assez courant dans certaines familles anglaises qui avaient un petit peu de moyens, mais qui n'étaient pas extrêmement riches, de venir s'installer quelque temps en France. Vous parliez de Churchill, la femme de Churchill a longtemps vécu dans son enfance à Dieppe, parce que en France la vie était moins chère et on pouvait maintenir un certain train de vie pour beaucoup moins d'argent qu'à l'époque en Angleterre. Et ils se sont installés là, ils ont beaucoup aimé cette période et ils ont surtout tous pratiqué énormément la bicyclette.
Alors à partir de 13 ans, il reçoit sa première bicyclette.
Alors c'est l'époque où tout le monde, les bicyclettes viennent d'arriver, en tout cas les bicyclettes modernes. Et Lawrence est un grand voyageur en bicyclette puisqu'il fait le tour de France en bicyclette très très tôt, partant à l'aventure sur les routes de France, visitant les châteaux forts puisqu'il travaille pour une thèse sur les châteaux forts et c'est très amusant de ces récits de traverser surtout du sud de la France, de son arrivée à Aigues-Mortes. Il y a des lettres passionnantes à sa famille là-dessus, mais c'est le début de la grande aventure. aventures, ces grands voyages en France en bicyclette.
Et aussi le début d'un amour de la solitude. Alors il part pas toujours tout seul en vélo, parfois il a un ami qui l'accompagne, mais il part aussi sur des distances très longues. On a calculé, je crois que durant un de ses trajets, il avait fait 4000 km en France, et là il part tout seul alors qu'il est quand même adolescent.
Oui. Enfin, il a 17, 18 ans et il part tout seul sur les routes de France. D'ailleurs, les Français qui le croisent dans les villages sont très, très surpris de le voir. Mais enfin, c'est cette image de l'anglais un peu excentrique, un peu fou, qui commence à se répandre en France et qu'on a commencé à connaître à cette époque-là.
Ouais. Alors, ce qu'il aime, c'est visiter les cathédrales. Il a une passion pour l'architecture du Moyen-Âge.
Il a une passion pour l'architecture du Moyen-Âge et c'est ce qui explique son voyage en Moyen-Orient, puisqu'il y va pour étudier les châteaux croisés. Et on va le retrouver décrivant les principaux châteaux croisés du Moyen-Orient, le Krak des Chevaliers en Syrie, enfin dans ce qui est maintenant la Syrie, le château Beaufort au Liban, et il a une passion absolue pour les vieilles pierres. Et alors au Moyen-Orient et même en France, ce sont souvent des ruines. Tout ça a été restauré de manière extraordinaire maintenant, mais il faut imaginer qu'au début du siècle, au début du 19e siècle, tous ces châteaux forts étaient dans leur jus, il y avait des ronces absolument partout, et souvent, il était soit avec son frère ou tout seul, il n'y avait absolument pas de tourisme. Enfin, c'était dans certains cas, de véritables pionniers, et leurs cartes, leurs relevés, sont très précieux, puisque il n'y avait rien souvent avant.
De toute façon, on ne peut pas parler de touriste quand on parle de T. Lawrence.
Non. Il faisait les choses à fond. Il faisait les choses à fond, certainement, et avec une vision historique des choses, une volonté d'aller véritablement au bout de ce qu'il faisait. Et ce sera très caractéristique de tous ces voyages.
Donc, on n'a pas dit qu'il avait fait des études à Oxford, même s'ils n'ont pas tant que cela d'argent. Ils s'arrangent, les parents de T. Lawrence, pour faire en sorte que leurs enfants fassent de bonnes études. C'est important, le moment Oxford dans sa vie ?
Oui, parce que Oxford, on ne se rend pas compte forcément quand on est français à quel point l'université britannique est un lieu où on se forge des amitiés qui restent pour la vie. Et c'est là, avec Oxford, que Lawrence va rencontrer notamment son mentor pour le Moyen-Orient, qui est le Hogarth. Et évidemment, ce passeport Oxford va lui être très utile par la suite.
Est-ce que c'est avec Hogarth qu'il part faire de l'archéologie pour la première fois?
Non, il part tout seul. Hogarth va être là. C'est un peu plus tard que Hogarth, qu'il rejoint Hogarth lorsqu'il va s'installer dans l'est, dans ce qui est à la frontière aujourd'hui de l'Irak et de la Syrie, qui est dans la région de Carchemish. C'est à la frontière entre la Turquie, la Syrie et l'Irak. Et c'est là qu'ils vont se retrouver pour faire des études plus approfondies sur un site historique croisé.
Et ce sera le bonheur de Carchemish. On va en parler, mais je vous propose d'écouter d'abord un témoignage d'un autre archéologue anglais sur T. Lawrence, Leonard Woolley.
Ses cheveux étaient toujours très longs et dans un désordre sauvage. En général, il les trouvait trop longs quand il lui entrait dans la bouche pendant les repas. Le soir, il mettait par-dessus sa culotte et sa chemise blanche un gilet brodé blanc et or et un somptueux manteau de fil d'or et d'argent, un vêtement de 60 livres qu'il avait acheté à bon marché à un voleur sur la place du marché d'Alep. Le soir aussi, ses cheveux étaient soigneusement brossés. Assis devant le feu l'hiver et lisant, en général Homère ou Blake avec des poèmes de Doughty, avec ses cheveux luisants et cet air de sybarite, il paraissait extraordinairement différent du Lawrence qu'on connaissait le jour. Car tout en trouvant franchement plaisir à pouvoir vivre plus durement que la plupart des gens ne pouvaient ou ne voulaient le faire, et tout en s'accommodant lorsqu'il parcourait la Syrie à pied, de la chair la plus simple et en très petite quantité, s'habituant volontairement à se passer de tout, il n'était pas sans apprécier le confort. Il ne fumait pas, buvait rarement du vin et ne prenait jamais d'alcool, mais il aimait bien manger, savait apprécier la cuisine arabe que nous mangions à Carchemish et dégustait le café avec la science d'un connaisseur. En ce qui concerne le travail effectif, il était singulièrement fantasque. Dès le début, il réussit auprès des ouvriers arabes. En un sens, il le ressemblait assez, car le côté amusant des choses à faire avait autant d'attrait pour lui que leur intérêt scientifique. Lorenz et Hammoudi changeaient brusquement toute la tâche en un jeu, jusqu'à ce que, avec 200 hommes courant et hurlant, une demi-journée de travail fût faite en une heure. Mais il arrivait aussi que, venant d'une autre partie du champ de fouilles, je ne trouve à peu près aucun travail fait, parce que Lorenz était assis avec les hommes autour de lui, discutant avec eux quelques problèmes de la coutume locale ou éclaircissant un aspect du dialecte.
Compagnie des auteurs sur France Culture. On peut continuer de faire un peu un portrait de T.E. Lawrence à cet âge-là. Vous le décrivez avec son air d'adolescent batailleur. C'est vrai qu'il fera toujours très jeune. Il est mort aussi, tristement, très jeune. Quel portrait on peut continuer de faire de ce qui est quand même un peu un garnement ?
Oh, il y a une sorte de liberté totale. D'ailleurs, on parlait de Karkemish. C'est là où il va forger, il va commencer à forger des relations et surtout savoir comment s'adresser aux Arabes.
Mm-hmm. Ce qui s'entend très bien, c'est lui qui recrute pour le chantier de fouilles les personnes locales.
Absolument, c'est lui qui recrute. Et en même temps, je crois qu'il a une espèce de c'est quelqu'un qui n'a aucun préjugé. Et qui est son côté collégien permanent lui permet, et son charme lui permet, c'est un charme un peu mystérieux qui deviendra plus tard du charisme, c'est certain, lui permet d'entrer en relation avec les gens et les pauvres du coin ou bien les recrues, mais tout ça va lui être extrêmement utile par la suite au moment de la révolte arabe. Il a une manière d'entrer en relation, on appelle ça une empathie aujourd'hui, avec les gens qui n'existe pas chez un Anglais ou un Français de l'époque confronté au même genre de situation.
Alors il y a de l'empathie, mais il n'y a pas beaucoup d'amour, parce que il y a eu une tentative avec une jeune fille, Janet Lowry, à qui il a demandé sa main, mais bon, elle a eu un petit rire nerveux, et il a dit bon, d'accord, je vois, un petit peu blessé, mais sans plus. Et puis, on se pose des questions sur la sexualité de T.E. Lawrence, notamment parce qu'il est très proche d'un jeune ânier arabe qui s'appelle Daoum, et c'est une amitié qui fait beaucoup jaser dans son entourage.
Oui, d'autant que les sept piliers lui sont dédiés. Après, enfin, quand une fois que ce sera, il aura écrit les sept piliers. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Alors, il a un sens extrême de l'amitié. Il se retrouve en Syrie entre hommes. Finalement, quoi de plus naturel, d'une certaine façon, d'avoir des relations chez un jeune homme qui se développe, qui arrive à l'amitié et qui vont au-delà. Il y a, je crois, quand on voyage dans ces pays-là, dans le monde entier d'ailleurs, on est toujours à une grande surprise quand on peut entrer en relation avec les personnes qu'on rencontre et qu'on ne connaît pas de manière extrêmement naturelle, quand il se fait une sorte de contact immédiat. Alors ça passe souvent par l'humour, qui est un trait que Lawrence va employer avec énormément de talent, notamment quand il sera en relation avec les Arabes. Mais je crois qu'il a été troublé certainement par ce jeune homme. Il s'est très probablement rien passé de très précis. Mais c'est d'autant que il ne reverra pas Daoum après le départ de Karkemish et que Daoum disparaîtra pendant la Première Guerre mondiale. Voilà, il y a une amitié troublante. C'est tout. Je crois qu'on peut pas en dire tellement plus de ce point de vue-là.
Est-ce que c'est le moment aussi où possiblement il y a
des questions d'espionnage qui arrivent dans la vie de T.E. Lawrence, parce qu'on se demandait un petit peu si la situation dans laquelle il se trouvait, géographiquement parlant, ne pouvait pas le mettre dans une bonne position finalement pour espionner notamment les activités allemandes dans la région. Qu'en pensez-vous ?
Oui, il a été, c'est certain que c'est une... Alors Hogarth, son mentor, lui, clairement... Travail est un honorable correspondant des services anglais. Alors c'est encore en Angleterre, il n'y a pas vraiment à cette époque-ci de vrais services secrets. C'est encore le ministère des Affaires étrangères. Ce n'est qu'après que les services secrets seront créés. Donc c'est une forme de renseignement, mais qui n'est pas. Est-ce que vous qualifiez ça d'espionnage ? Je ne sais pas. Il est certain que les services anglais. Et les affaires étrangères dans un premier temps, puis après les services secrets anglais, utiliseront les archéologues comme des instruments pour obtenir des renseignements dans la région. D'autant que l'influence allemande grandit. Ils ont ce projet très important de créer un chemin de fer entre Berlin et Bagdad. Les Britanniques voient cela, et les Français également, mais plutôt surtout les Britanniques voient ça avec beaucoup d'inquiétude, d'autant que la région est devenue un enjeu majeur, pas tellement à cause de l'Empire ottoman, mais à cause de l'importance que va prendre le pétrole à partir de 1908-1910, avec la décision de Churchill que les bateaux britanniques utiliseront du pétrole et non plus du charbon.
Alors est-ce que Lawrence est un patriote ? Parce qu'en 1914, mais vous allez me dire, comme un peu tous les jeunes gens de son époque, il a très envie de s'engager, de partir... défendre son pays, défendre la France dans les tranchées. Il se trouve qu'il est plutôt petit, que donc on ne l'accepte pas à ce poste-là, et que du coup il va être enrôlé comme officier dans la section cartographique du War Office. Mais quel est son état d'esprit à ce moment-là ?
Lawrence, il faut dire la vérité, comme beaucoup de ses camarades britanniques, n'est pas un grand patriote. L'Angleterre, on ne se pose même pas de problème, de questions sur l'Angleterre. Il y a un événement majeur qui se passe en Europe et on ne peut pas faire. Le raisonnement des gens disons, d'une certaine éducation en Angleterre, c'est que c'était la chose qu'il fallait faire, on ne pouvait pas faire autrement.
C'est une question d'honneur.
C'est une question d'honneur, de principe. Les camarades le font, les copains le font, on le fait, voilà. L'appel à la nation, le patriotisme, va venir un peu plus tard en Angleterre, après 14, plutôt vers 1915, quand il faudra recruter des armées beaucoup plus conséquentes. Mais en août 14, l'armée anglaise est encore très petite. Elle est formée de professionnels et c'est une chose normale dans une famille, quand on a fait des bonnes études, d'aller faire la guerre.
Donc il fait des cartes, parfois il les fait plus ou moins bien parce qu'il ne connaît pas forcément toutes les régions qu'on lui demande de cartographier dans les 24 heures, mais enfin bon, il le fait quand même plutôt bien. Et puis, en insistant beaucoup, il finit par être envoyé en décembre 1914 pour le Caire, et là il va vraiment passer un cap et passer dans la politique.
Et c'est à ce moment-là, si vous voulez, que on voit que le personnage de Lawrence éclot vraiment. Il est dans un poste finalement subalterne. Il n'impressionne personne.
Par son insolence, peut-être.
Il est insolent. Il ne salue. Il a pris cette habitude de ne jamais saluer qui que ce soit, encore moins un général qu'un autre. Mais dans cet univers du Caire, où finalement il y a un certain nombre d'officiers. Un peu excentriques, qui sont là parce qu'ils manquent un peu de discipline, ça passe très bien. Et je crois qu'il s'aperçoit alors qu'il a, par sa propre volonté, qu'il peut faire quelque chose. Il n'est pas dans cette espèce de grande lutte anonyme qui se déroule en France. En revanche, au Moyen-Orient, il a son originalité, il va pouvoir faire quelque chose.
Et c'est ce qu'on va voir en seconde partie de cette émission, juste après la chronique dans Compagnie des Revues.
La Compagnie des Auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
On marque donc une pause dans cette émission avec vous, Guillaume Ledouarin de la revue Page des Libraires. Bonjour à vous, Guillaume.
Bonjour, merci de m'inviter encore aujourd'hui.
Alors, trois conseils de lecture aujourd'hui. Le premier, c'est un livre de Ernst Lothar. On va voir que le deuxième aussi. Mais on commence par le premier. Ça s'appelle Mélodie de Vienne et c'est publié chez Liana Lévy.
Alors là, on parlait d'aventure et d'histoire de famille et on va être complètement plongé dans tout ça. Je vais d'abord vous parler très rapidement d'Ernst Lothar, qui est un auteur que j'ai découvert il y a 2 ans. C'est un homme de loi au départ, un procureur. Il devient écrivain en 1925 et il fréquente le même cercle d'écrivains que Stefan Zweig, Josef Roth ou Musil.
Il est autrichien, il faut le dire.
Il est autrichien, c'est un juif viennois et malheureusement il est obligé de fuir l'Autriche au moment de l'Anschluss en 1938 et il part s'exiler aux États-Unis et plus précisément à New York. Et là, comme c'est un homme de culture, il décide de fonder l'Austrian Theater à New York et après, à son retour en Europe, il dirige le Burgtheater, qui est un des théâtres mondialement connus et les plus importants au monde. Alors, je vous dis tout ça pour le situer, et je pense que le fait que ce soit un homme de théâtre, ça a une grande importance dans l'écriture de ses livres. Et moi, je suis rentré dans l'œuvre de Ernst Lothar en 2017 grâce à Mélodie de Vienne. Mélodie de Vienne,
ça, c'est le deuxième livre dont vous voulez nous parler.
Ah, pardon. Non, le deuxième, c'est Revenir à Vienne.
Revenir à Vienne, pardon.
Mélodie de Vienne, c'est donc le premier, et c'est l'histoire, c'est une grande saga familiale, c'est l'histoire de cette famille, les Alt, qui sont des fabricants de pianos. Et il y a une unité de lieu qui est cette grande maison viennoise où toute la famille est logée. Au rez-de-chaussée, il y a la grand-mère qui dirige toute cette petite maisonnée d'une main de fer. Et malheureusement pour eux, donc ce qui est intéressant, c'est qu'il y a à la fois l'histoire personnelle, l'histoire de cette famille qui est imbriquée dans la grande histoire. Et je disais malheureusement pour eux parce qu'en 14, la Première Guerre mondiale se déclenche. Et évidemment, tout ça va perturber l'organisation de cette famille, d'autant qu'une jeune fille, Henriette Stein, va venir bouleverser aussi l'ordre bien corseté de cette famille bien viennoise. Et là, vous partez dans cette aventure de cette famille. C'est impressionnant, on est vraiment embarqué. C'est un tourbillon dans l'histoire. Moi, j'ai découvert Ernst Lothar grâce à ce premier titre.
Et alors, une fois qu'on l'a découvert, on ne peut plus le lâcher visiblement parce qu'on veut lire l'autre livre dont vous allez donc nous parler, Revenir à Vienne.
Et alors voilà, donc
c'est la suite.
Alors, c'est pas tout à fait une suite, mais c'est un livre qui m'a aussi peut-être même plus touché parce que là, c'est ce que je vous disais en introduction, Ernst Lothar a dû s'exiler en 38 au moment de l'Anschluss. Et Revenir à Vienne, c'est l'histoire de Ernst Lothar, à savoir que il est obligé de quitter sa Vienne chérie au moment de l'Anschluss. Il part aux États-Unis. Bon, là, le personnage dans cette histoire, c'est le double Ernst Lothar, c'est Félix qui travaille dans une librairie comme par hasard pour subsister. Comme tous les gens bien, effectivement. Mais en fait, il ne veut pas du tout profiter de l'appui de sa famille, de l'appui financier. Donc, il se débrouille comme ça. Il est libraire, mais il a toujours dans un petit coin de sa tête, sa Vienne aimée, sa Vienne chérie, d'autant qu'il a laissé un amour de jeunesse sur place. Voilà, donc il veut absolument revenir dans son pays, même s'il obtient la naturalisation américaine, il veut revenir à Vienne. Et tout le livre, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez toute la partie américaine qui décrit bien quelqu'un qui est en exil, qui souffre du manque du pays, et puis aussi il y a ce retour tout à fait impressionnant à Vienne, et notamment pour les gens qui liront le livre, moi j'ai en mémoire encore cette traversée en paquebot où il repart avec sa tante. On a toujours, dans la littérature, on a toujours l'arrivée à New York ou aux États-Unis qui est formidable parce qu'il y a la liberté qui s'offre à vous, etc. Lui, il repart des États-Unis, il arrive à Vienne. Évidemment, le Havre, la France est dévastée, il doit passer par le Havre. Mais ce que j'ai aimé dans ces personnages, j'essaie d'en parler avec passion, mais on est vraiment entraînés. C'est-à-dire qu'ils arrivent en France, ils sont dans le train, ils redécouvrent la nature, la vie qui avance. Et puis, il y a aussi le personnage très important, la grand-mère Victoria, qui est hallucinante de snobisme, qui c'est vraiment la viennoise qui s'habille, qui veut avoir un certain statut. Mais en même temps, elle a toujours une intransigeance morale et elle ne transigera pas sur ses engagements politiques.
Alors, le troisième ouvrage dont vous voulez nous parler est celui d'un auteur japonais qui s'appelle, le livre s'appelle La Grande Traversée et c'est chez Actes Sud.
Alors ça, c'est aussi une autre traversée. C'est un livre qui m'a beaucoup, beaucoup plu. En fait, on rentre dans ce livre vraiment à pas feutré. C'est très japonais, très lent, mais on ressort de ce livre vraiment conquis et bouleversé. C'est une histoire assez simple. C'est un jeune homme qui s'appelle Majime qui va être recruté. C'est une sorte de Bartleby un peu à la japonaise, complètement complètement décalé, personne n'a envie de lui parler, il ressemble à rien, on a l'impression qu'il ne sert à rien. Mais ce jeune homme, en fait, va se passionner, il va être embauché pour créer un dictionnaire, un des plus beaux dictionnaires du monde. Et en fait, lui, ce qui l'intéresse, c'est faire quelque chose qui n'est pas rentable. Donc dans la maison d'édition, il travaille dans un coin obscur de la maison d'édition, ça ne sert à rien, mais il va créer ce dictionnaire parce qu'il pense que les mots, c'est quelque chose d'important, ça permet aux humains de dialoguer, ça permet aux gens de savoir de quoi on parle. Donc lui, il va consacrer sa vie à la réalisation de ce dictionnaire. Il n'a jamais connu l'amour. Peut-être va-t-il connaître l'amour. Il y a une lettre dans ce livre qui est très importante parce qu'il ne s'est pas déclaré sa flamme. Donc il va faire une lettre de 16 pages qui refera son apparition dans le livre.
16 pages, ça veut dire qu'il sait bien déclarer sa flamme.
Peut-être.
Il y a beaucoup de choses
à dire. En tout cas,
je
ne vous dis pas si ce dictionnaire va se faire. On le saura une fois qu'on aura lu le livre. C'est un livre vraiment bouleversant et très touchant, un très très beau livre.
D'accord, traduit, c'est donc chez Actes Sud.
Traduit par Sophie Reffle, et je voulais juste dire, parce que je ne l'ai pas mentionné, la traduction du livre de Ernst Lothar, parce qu'il faut toujours parler des traducteurs, c'est Elisabeth Land pour les deux titres.
Merci beaucoup, Plus Grande Traversée, c'est aussi les Grandes Traversées de l'été hein, sur France Culture avec des semaines, vous l'entendrez sur la grille d'été qui commence la semaine prochaine, des semaines consacrées à Céline, à Virginia Woolf ou encore à Walt Disney. Toutes les infos sur le site de France Culture, merci. Et puis n'oubliez pas de vous procurer Page des Libraires en librairie. À très bientôt. C'est bien la compagnie des auteurs que vous écoutez sur France Culture au premier jour d'une série consacrée à T.E. Lawrence, l'auteur des 7 piliers de la sagesse, car il y en a 7. Nous sommes avec Christian Destremau, auteur d'une biographie de l'auteur publiée en 2014 aux éditions Perrin. Et c'est au milieu de la bataille qui oppose Turcs et Arabes que nous avons laissé Lawrence en 1916, lui qui a pris fait et cause pour les Arabes et qui s'est fondu autant que possible parmi eux. On l'entend d'ailleurs dans sa correspondance.
J'ai été si violemment déraciné et plongé si profond dans une affaire trop grosse pour moi que tout me paraît irréel. J'ai laissé tomber tout ce que j'ai jamais fait et je ne vis que comme un voleur de chance, accrochant l'occasion du moment où et quand je la trouve. Les miens t'ont probablement dit que mon affaire est de fomenter une révolte arabe contre la Turquie et pour ce faire, il me faut essayer de déguiser mon aspect de franc et sortir aussi peu que possible du genre arabe. C'est donc comme une espèce de scène étrangère sur laquelle on joue nuit et jour, costumé, dans une autre langue, avec l'idée qu'on paiera l'échec de sa tête si le rôle n'est pas bien rempli. Tu as deviné juste, les Arabes séduisaient mon imagination. C'est la vieille, vieille civilisation qui s'est affinée en se débarrassant des dieux domestiqués, de la moitié des falbalas que la nôtre a hâte de s'approprier. L'évangile du dénuement à l'égard des choses matérielles est salutaire. Et il semble impliquer aussi une sorte de dénuement moral. Ces gens n'ont que la pensée du moment. Et ils s'efforcent de traverser aisément la vie sans avoir rien à contourner ou à escalader. C'est en partie une fatigue mentale et morale, une race épuisée. Et pour éviter les difficultés, il leur faut s'alléger de tant de choses que nous jugeons honorables et importantes. Et pourtant, sans partager aucunement leur point de vue, je crois que je puis le comprendre suffisamment pour nous voir, moi et les autres étrangers, sous l'angle où ils nous voient, et sans le condamner.
Alors l'histoire de T. Lawrence, ça va être bientôt l'histoire d'un homme partagé finalement entre deux cultures, Christian Destremau. Il faut raconter un petit peu comment il en arrive à mener cette révolte des Arabes contre les Turcs. Dire que 2 ans après son arrivée en Égypte, en 1916, il est chargé d'une mission. Comment peut-on expliquer simplement, ce qui n'est pas simple, aux auditeurs, la nature un petit peu de cette mission dans le contexte historique, géopolitique de l'époque ?
Alors, il est chargé, il n'est pas proprement chargé de mission, il se joint à une mission qui est envoyée par les autorités britanniques au Caire pour étudier, analyser un mouvement qui est en train de se développer en Arabie, ce qu'on appelle aujourd'hui l'Arabie Saoudite, mais c'est le Hejaz, qui est cette grande province qui longe la mer Rouge, et qui a été lancé par le shérif de la Mecque, qui s'appelle Hussein de la Mecque et ses fils. Et c'est un mouvement qui cherche à profiter de la situation. La Turquie est entrée dans la guerre aux côtés de l'Allemagne, et il cherche à profiter de cette situation pour se débarrasser des Turcs.
Parce que la Turquie est considérée comme l'homme malade de l'Europe, donc potentiellement un maillon faible qui pourrait aider finalement.
Oui, c'est un maillon faible, c'est très grand, l'Empire ottoman est très grand, donc face aux difficultés en France, du front en France, certains militaires britanniques cherchent des diversions et une autre manière de faire la guerre. Et surtout de détacher à un moment donné, d'espérer détacher la Turquie de son alliance avec l'Allemagne. Mais les gens sont extrêmement sceptiques au Caire. Tout ça se passe très loin. On connaît très très mal ces Arabes. Et il y a une crainte très forte chez les militaires que ce soit un échec et qu'on doive finalement venir envoyer des troupes pour soutenir cette révolte et cela en pure perte. Lawrence réussit à se mettre dans cette mission et par... Enfin, c'est assez extraordinaire quand on lit ces 7 piliers. Vraiment purement par sa volonté individuelle, il parvient à s'imposer comme le conseiller principal. Il y en a d'autres, mais en tout cas le conseiller numéro un de la révolte arabe. Et il se fait le grand entre guillemets publiciste de cette révolte.
Donc le conseiller de Faisal, qui est l'un des fils de Hussein.
Voilà, le conseiller de Faisal, qui est un des fils de Hussein. Et qu'il rencontre un jour dans la montagne, le long de la côte de la mer Rouge, et il est instantanément fasciné par ce Faisal. Et avec son sens littéraire extraordinaire, Lawrence rédige une note pour les militaires au Caire en disant que Faisal lui fait penser au gisant de Richard de Cœur de Lion qui se trouve à l'abbaye de Fontevraud. Alors, c'est typique de Lawrence de donner des espèces d'aperçus comme ça. Et alors, tous ces gens extrêmement de bon niveau, parce qu'au Caire, il y a des militaires qui sont des gens de très bon niveau, cultivés, immédiatement voient qu'il y a quelque chose d'intéressant. Mais le scepticisme règne, il faut dire, et Faisal n'a pas du tout fait ses preuves, non plus que Hussein. On considère encore que l'armée turque est une armée importante. Il y a quand même eu cette défaite catastrophique aux Dardanelles un an auparavant. En Mésopotamie, les choses ne sont pas allées mieux. Et l'ennemi turc est considéré comme une armée très difficile à battre. Et donc, c'est vraiment la volonté personnelle de Lawrence, une capacité qui est liée essentiellement à la façon dont il rédige. J'ai consulté tous ces rapports qui se trouvent dans les archives à Londres. Et c'est fascinant de voir à quel point, comment il réussit à imposer l'idée que cette révolte va déboucher en quelque chose d'utile.
Et donc il va finalement réussir, par ses conseils, par la science un petit peu stratégique qu'il arrive à acquérir et dont on parlera cette semaine, à faire en sorte, alors quelle est sa part finalement dans la réussite de la révolte arabe, c'est évidemment difficile de le dire, mais enfin il semble que quand même il ait pris toute sa part là-dedans, le voilà embarqué dans cette histoire qu'il va raconter dans les 7 piliers de la sagesse, et finalement c'est ça le cœur de la vie de T. Lawrence. C'est le moment où à la fois il vit des atrocités terribles et en même temps il y a cette espèce de corps qu'il fait avec le désert, cet aspect un peu mystique finalement de transcendance qui de nouveau est raconté dans les 7 piliers.
Je ne sais pas si on peut parler de mystique et de transcendance. Dans les 7 piliers, c'est assez extraordinaire, mais je n'ai pas relevé... En France, on a connu des personnages comme évidemment le père de Foucault, ou qui ont été fascinés par... Il y a eu cette fascination de l'islam. cette foi très incandescente, toute simple, cette vision de, d'homme en train de prier au milieu de, du désert a fasciné beaucoup de gens. On ne trouve pas ça chez l'homme.
C'est plus le désert qui fascine, c'est le désert, pas tellement la religion, puisque lui-même est en effet complètement athée.
Et c'est l'épreuve personnelle, c'est l'aventure personnelle et c'est le test personnel. Alors, il y a le charme, qui dira le charme de Faisal, qui a indubitablement joué. Je ne suis pas sûr que les choses auraient été les mêmes s'il n'y avait pas eu un personnage comme Faisal, dont Lawrence est vraiment tombé presque amoureux. Enfin, ils se sont trouvés de manière extraordinaire dans des conditions les pires. Le prince Faisal était, à un moment donné, ils sont allongés par terre, ils passent la nuit dans des conditions extrêmement dures. Donc ça crée des très forts liens. Et il est fasciné par cela et en même temps, eh bien, c'est cette volonté personnelle de Lawrence de devenir quelqu'un, pour dire les choses de manière extrêmement simple. Alors, évidemment, il choisit la voie la plus dure, parce que accompagner ces bédouins dans une telle aventure est une épreuve sur un plan physique qu'on a un peu de mal à imaginer aujourd'hui.
Alors, on l'imagine peut-être mieux en regardant le film très célèbre Lawrence d'Arabie. Disons tout de suite ce que tout le monde se demande. Est-ce que ce film donne une idée de l'aventure que Lawrence d'Arabie et Faisal ont vécu, ou est-ce que on est là dans quelque chose de très fantastique?
Oui, alors il y a quelque chose qui sont un peu exagérés, mais dans l'ensemble, je crois que ça représente bien. Alors, évidemment, il ne peut pas donner les détails, je ne m'étendrai pas là-dessus, physiques, des épreuves qu'a traversé Lawrence pour s'adapter à cette vie de bédouin sur un dromadaire, pour s'adapter à la soif, à la chaleur. Ce sont des conditions totalement invraisemblables. Alors, il faut dire qu'on est à une époque où, en tout cas chez les Anglais, il y a la guerre qui est en cours, donc ça relativise. Les épreuves connues en France sont également terribles. Mais il y a eu avant-guerre ces grandes expéditions, notamment dans l'Antarctique, qui ont été aussi dans des conditions absolument inouïes. Donc il y a des choses qui se sont faites. Mais Lawrence, la grande différence, c'est que Lawrence est seul.
Oui. Alors, ce que vous ne dites pas, ce que ne dit pas le film, c'est que il y a quand même la guerre qui est plus dure que David Lean, le metteur en scène du film, ne le montre. Et notamment, on peut se demander si au moment de la prise d'Aqaba, donc cette ville qu'il s'agit en effet de prendre, où Lawrence a été témoin de plusieurs incidents au cours desquels les soldats turcs ont été exécutés alors même qu'ils avaient agité le drapeau blanc. Donc il y a des crimes de guerre quand même, qui sont peut-être un petit peu édulcorés dans le film. C'est quand même un réel traumatisme profond pour Lawrence, qui ensuite, avait déjà sans doute un tempérament peut-être un peu dépressif, mais qui vivra quand même très mal et qui aura beaucoup de mal à se sortir psychologiquement de cette guerre-là.
Alors effectivement, c'est une guerre où on fait pas de prisonniers. Évidemment, il y a des raisons pratiques pour cela. C'est extrêmement difficile d'emmener des prisonniers dans le désert. Il faut les nourrir, il faut leur donner à boire. Mais effectivement, Lawrence va assister à un certain nombre de scènes terribles, de massacres de prisonniers. J'ai reçu des lettres suite à mon livre, parce que j'en parlais, des gens qui étaient étonnés et qui m'ont reproché de parler de ça. Encore 50 ou 60 ans après, le mythe reste là. On le voit un peu dans le film. À un moment donné, mais c'est plus tard, c'est au moment où ils arrivent près de Damas, où il y a une colonne turque qui est massacrée. Lawrence, il y a eu un certain nombre d'incidents dans lesquels Lawrence ne participait pas. En revanche, en ce qui concerne cette colonne turque près de Damas, il dira que c'est lui qui a donné l'ordre. Mm-hmm. Qui a donné l'ordre de les passer au fil de l'épée, enfin à la mitrailleuse.
On va écouter juste la première page des sept piliers de la sagesse pour se mettre dans l'oreille, la prose de T. Lawrence.
Dans ces pages, le récit n'est pas celui du mouvement arabe, mais de moi dans celui-ci. C'est une narration de la vie quotidienne, d'événements mineurs, de petites gens. Il n'y a pas là de leçon pour le monde, pas de révélation qui bouleverse les peuples. Elle est emplie de choses banales, en partie pour que personne ne prenne pour de l'histoire les eaux dont peut-être un jour quelqu'un fera de l'histoire. Et en partie pour le plaisir, que j'ai eu à évoquer la camaraderie de la révolte. Nous étions ensemble pleins d'amour, à cause de l'élan des espaces ouverts, du goût des grands vents, du soleil et des espoirs dans lesquels nous travaillions. La fraîcheur matinale du monde à naître nous saoulait. Nous étions agités d'idées inexprimables et vaporeuses, mais qui valaient qu'on combatte pour elles. Nous avons vécu beaucoup de vie dans le tourbillon de ces campagnes, ne nous épargnant jamais. Nous avons accompli ce que nous nous étions donné à faire et nous avons la satisfaction de le savoir. Mon souci se limitait à cette seule fin et ce livre se contente de retracer la progression de la liberté arabe depuis la Mecque jusqu'à Damas.
Alors Christian Destremo, que va devenir T.E. Lawrence après la guerre? La première chose à dire, c'est qu'il va rentrer et se rendre compte, il le savait sans doute déjà, que c'est une personnalité extrêmement célèbre. Peut-être qu'il n'avait pas réalisé à quel point il était devenu célèbre.
Il est revenu en Europe. Il a tout de suite un rôle. On le consulte dans l'administration britannique, les affaires étrangères, le gouvernement. C'est devenu quelqu'un de très connu. Mais dans le grand public, il va être. C'est surtout parce qu'il va rencontrer un journaliste américain qui va monter une sorte de spectacle cinématographique. Et qui va faire des tournées dans le monde entier, enfin beaucoup aux États-Unis et en Angleterre, et c'est là où il deviendra vraiment célèbre. Mais il est très connu, en tout cas dans un milieu à la fois des dirigeants, des hommes des affaires étrangères, et puis un milieu intellectuel. Avec très vite une amitié avec George Bernard Shaw, et puis de là, l'amitié, il va rencontrer tous les intellectuels de l'époque, enfin pas tous, mais un certain nombre de grands écrivains de l'époque.
Et alors là, il y a cette chose un petit peu étrange qu'il va s'engager dans la Royal Air Force. Bon, on fait des bonds là dans le temps assez importants, Christian Destremo, mais sous pseudonyme, comme si la célébrité tout d'un coup lui pesait et qu'il avait envie de revenir au plus bas de l'échelle et de se fondre dans la masse et de disparaître totalement. Comment analysez-vous cela ?
C'est assez difficile parce que quand on creuse bien, il est conscient qu'il ne peut pas disparaître totalement. Alors il prend un pseudonyme, mais en même temps il est protégé parce que pour faire cela, il a eu un certain nombre d'autorisations. Les chefs de l'armée de l'air sont au courant, Churchill est au courant bien sûr, et tous ces écrivains qu'il a rencontrés comme George Bernard Shaw est parfaitement au courant de cela.
Il y a une volonté de partir une fois, de quitter le lieu où il se trouve.
Absolument, il y a une volonté de partir. Peut-être de retrouver cette sorte d'ascèse qu'il a connue au Moyen-Orient. On a dit aussi qu'il a fait ça parce qu'il, en quelque sorte, s'auto-flagellait de l'échec, finalement, de la grande aventure, puisque les revendications arabes n'avaient pas été totalement satisfaites et qu'il se serait puni d'une certaine façon pour faire cela. C'est difficile à analyser parce que le personnage est vraiment complexe. En tout cas, ça a donné un livre extraordinaire, qui est La Matrice, qui est un petit livre.
Qu'on connaît beaucoup moins
que Les Sept Piliers. Pourquoi? Parce que c'est un livre dur à lire, difficile, où il raconte l'autre bout, c'est-à-dire une épreuve, l'épreuve du simple soldat dans la RAF dans les années 20, les corvées les plus abjectes, les sous-officiers les plus ignobles. Et quand on lit ça à côté des Sept Piliers, c'est un contraste mais extraordinaire. Ouais. Mais il va donc rester là, puis il va basculer, pardon,
allez-y,
dans les chars. Cela va pas durer très longtemps parce que dès 1926-27 va paraître d'abord une version abrégée des Sept Piliers de la Sagesse qui s'appellera La Révolte dans le désert, qui sera un succès énorme.
Voilà. 1935, quelques années plus tard, il meurt dans un accident de moto. Sans doute qu'il allait trop vite, mais il a voulu éviter deux cyclistes, justement, lui qui avait fait beaucoup de vélo. Il paraît que son crâne a été fendu sur 20 cm et il meurt à l'hôpital militaire de Bovington sans jamais avoir repris connaissance.
en un mot, un tout petit mot, c'est un accident qui vous paraît un vrai accident ?
Oui, 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 c'est un vrai accident. On a beaucoup spéculé là-dessus, sur un coup des services secrets. Non, c'est un vrai accident, ça fait pas de doute.
Merci Christian Destremont. Je rappelle que votre biographie, parue en 2014 chez Perrin, est tout simplement intitulée Lawrence d'Arabie et que votre dernier livre s'appelle Churchill et la France. Il a paru chez le même éditeur en 2017. C'était La Compagnie des auteurs, une émission d'Anne-Vanessa Prévost, Didier Pinault, Laurence Millet, Laurence Genepin, Garance Mazelier et Clément Daté. Demain, nous reviendrons sur le premier voyage de Lawrence d'Arabie, quand il visitait les châteaux des croisés. Nous le ferons grâce à Jean Rollin, qui a refait une partie de ce voyage. Et puis par ailleurs, n'oubliez pas le numéro d'été de France Culture Papier, sous le titre « La beauté et ses énigmes, pourquoi aimons-nous ce que nous aimons ?» Mais pour l'heure, c'est le retour de la poésie, proposée comme chaque jour par Jacques Bonafé.
Bonjour, bonjour la compagnie. Cette semaine, sans commentaire, redire tous les regrets. Là, tous ces textes encore à dire. Non, 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 on ne va pas refaire encore son Dubellé. Finir en beauté, ce sera le thème. Voilà, on sera dans le thème dernier jour du printemps et pour finir en beauté, hommage à Franck Venaille dans Requiem de guerre. Derniers épisodes d'une lutte contre la maladie. Franck Venaille. Avec ivresse profonde, les mots m'ont accueilli. Il ne suffisait pas seulement de prendre la parole, mais me tenir avec eux dans les marges du texte fut désormais possible. Possible également de montrer à tous ce qui se cache dans la caverne du langage. Voyez, oh voyez, comme les mots tremblent et geignent, orphelins qui, dans le noir, cherchent une autre famille. Extrait d'un chapitre qui s'appelle « La garde de nuit et autres poèmes de ce temps-là ». J'avais la peur en moi, aussi me suis-je précipité dans vos bras. Vous étiez là pour me protéger. Mais de qui ? Ah, bingo, bingo, bingo ! Ce sont les mots qui sortent de ma bouche. Je pourrais dire qu'il s'agit d'un bruit nocturne. Ma nuit est définitivement blanche, tandis que je suis dans la terreur, née de mes cauchemars adultes et de ce qu'ils montrent de moi-même enfant. Grand pitié, c'est ce que je vous demande. Grand pitié. La garde de nuit est autre poème de ce temps-là. Elle, avec la totalité de son large corps d'aide-soignante, elle me tient serré contre ses muscles, ses os, sa poitrine portée forte et apaisante. Moi, je claque des dents. Va-t-elle m'aider à m'enfuir, à refaire à moitié nu ce long couloir qui mène jusqu'au tube de néon rouge signalant l'emplacement de la sortie ? Ce n'est ni son rôle ni son emploi. Les mots qu'elle utilise toute cette nuit expriment sa sagesse vigilante. Nous évoquons l'étrange silence de Dieu à notre égard. Bien sûr, elle est croyante et pratique couramment le pardon. Moi, je crève de fièvre. Maintenant, la voici qui s'allonge sur le canapé avec ses vêtements de la journée. Et l'on reparle de la trahison de son mari. Mort désormais et enterrée là-bas, chez elle, où elle retournera, c'est sûr. Elle dit que l'Éternel est amour. Voici ce qu'elle me dit. Aujourd'hui, je compose ce poème né de mon immense terreur. Je me souviens des mots qu'elle prononce avec sa musicalité personnelle. Des mots, quoi. Puis soudain, « Savez-vous que je suis trois fois grand-mère ?» Elle part à 7 heures précises pour cette fois assurer la garde de jour. Ainsi se déroula la première nuit du retour chez lui, de l'homme en proie à la maladie.
Jacques Bonafé avec une semaine intitulée « Finir en beauté » autour aujourd'hui du poète Franck Venaille et de son ouvrage « Requiem de guerre » publié au Mercure de France.